Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marques engagées ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Il aura fallu des années de recherche et développement pour réinventer une pièce honnie par tout le monde, le bonnet de bain. À 50 ans, avec deux enfants, Emmanuel Cardosi a quitté son CDI et son background dans l'événementiel et la com pour créer, en total outsider, Cardo Paris, une marque à la croisée de la mode, de l'innovation, du sport et de l'entrepreneuriat. Cardo, c'est une gamme de bonnets de bain, puis de maillots ultra techniques, élégants et confortables, testés par de multiples pros de la natation, notamment synchronisés avant d'être mis en marché. Le défi n'étant pas assez grand, c'est aussi une marque responsable, intégralement made in France et Italie, dont les pièces sont garanties des années. Aujourd'hui, Cardo a conquis toutes les nageuses, des sportives à l'année aux bulleuses saisonnières des bords de plage, en passant par les boutiques de spa des grands hôtels de luxe. Alors, fonder une marque engagée de A à Z sans connaissance ni réseau, c'est l'histoire d'Emmanuel et de Cardo pour une pratique technique, esthétique et responsable de la natation au féminin. Place à elle. Bonne écoute! Bonjour Emmanuel.
Bonjour Victoire, bonjour Caroline.
On a commencé en off un petit préambule dans lequel vous nous disiez que vous aimiez dessiner et pas les tableurs Excel. Pourtant, oui. Vous êtes la fondatrice de la marque Cardo Paris et ça fait 10 ans. 10 ans de tableurs Excel, quand on n'aime pas ça, c'est beaucoup. Oui. Et sur un marché qui est assez particulier, un marché de niche, l'histoire a commencé avec les bonnets de bain. Oui. Si je ne dis pas de bêtises, vous allez nous raconter ça. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter?
Oui, je m'appelle Emmanuel Cardosi. Je suis depuis peu sexagénaire. Je le dis quand même, parce que c'est quand même un truc qui marque dans une vie, quand on est une femme, et d'avoir 60 ans et d'être chef d'entreprise. Je suis mère de deux enfants, une jeune femme de 27 ans et un garçon de 22. Qui sont ma grande fierté. Et ma deuxième fierté, c'est Cardo Paris, donc, que j'ai créé en juillet 2012, à mon corps défendant, parce que je voulais j'avais créé un bonnet de bain. Et que, eh bien, à un moment, quand même, quand on crée un produit, il faut malheureusement passer à la vente. Voilà, donc j'ai créé ce bonnet de bain parce que depuis toujours, j'allais nager. Je nage. Et alors, je vais repartir à mon enfance, mes grands-mères corses, parce que je suis corse des deux côtés.
De quel endroit ?
Je suis de la plaine orientale, sous Bastia, la plaine des agriculteurs. Et mes deux grands-mères, qui s'entendaient fort bien, nous accompagnaient à la plage. Elles ne savaient nager ni l'une ni l'autre, mais elles avaient des turbans sur la tête. Elles étaient avec leurs jupes, elles relevaient leurs jupes, elles mettaient les pieds dans l'eau, et elles avaient des turbans magnifiques sur la tête. Voilà. Alors, ça n'avait pas nagé, elles n'allaient pas dans l'eau, mais elles avaient ça sur la tête. Et moi, petite, donc, j'avais bien sûr les bonnets en plastique gaufré. Et d'ailleurs, j'ai des films de moi toute petite avec ma bouée canard, avec des bonnets sur la tête. Et ces bonnets qui étaient assez rigolos, qui étaient bon, totalement insupportables parce qu'on dégoulinait, on avait tellement chaud avec ça, ont perduré pendant pas mal d'années. Et puis, Moi, je me souviens des maillots de bain à l'époque, quand on était petit, c'était affreux, ça gratouillait, c'était pas agréable. On sortait, on avait l'impression d'avoir des maillots en laine, pratiquement. Enfin bon, j'ai pas connu le maillot en laine, mais quand même pas loin. Et après, au fur et à mesure de ma vie, j'ai toujours continué à nager, parce que bon, quand vous passez tous vos étés, juillet, août, dans l'eau et que vous rentrez, ben en fait, vous continuez. Enfin, moi, j'adore l'eau, donc j'allais à la piscine. Et j'ai vu le monde du maillot de bain et du bonnet de bain se transformer. Ben, je peux dire que je suis témoin de ce truc-là. C'est-à-dire que les bonnets de bain sont devenus hyper techniques pour venir, pour être une espèce de petite boule de silicone ou de latex. Et les maillots de bain qui étaient moches comme tout, ont muté en de vrais vêtements et de très jolies choses. Au début, les maillots de bain, moi, quand j'étais jeune, c'était affreux. Et au fur et à mesure que la mode s'est emparée des sports aquatiques, de la plage, c'est devenu, on a aujourd'hui un choix extraordinaire. Et au fur et à mesure, donc, je voyais ces maillots de bain devenir très très beaux et le bonnet de bain trop moche. Et moi, alors là, ça se voit un peu moins là, mais moi j'ai une tignasse comme ça et j'avais toujours les cheveux longs quand j'étais jeune. Et à chaque fois, ça obérait pratiquement mon envie d'aller nager. C'était de me dire, putain de merde, il faut que je mette ce truc. Mmh. Et je ne comprenais pas. Je disais, non, mais attends, c'est sûr, au fur et à mesure que le temps passait, je me dis, mais c'est sûr, Gauthier, Jacobs, un mec comme ça va se dire, attends, toi viens ma poule et je vais faire un super truc. Et rien. Et à chaque fois, j'achetais des maillots de plus en plus techniques, sympas. Alors, je dis, que pour nager en piscine, parce que moi, je suis naturiste, je ne mets jamais de maillot. Quand je vais dans la mer, je suis toujours à poil, je porte pas de maillot. Mais à la piscine, donc j'avais ces maillots et j'attendais ce truc. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à faire de l'aquagym. Mais c'était compliqué il y a 30 ans de faire de l'aquagym parce qu'en fait, c'était vraiment destiné aux hommes et femmes qui s'étaient blessés.
C'était de la réhabilitation kiné, quoi.
Exactement, c'était de la réhabilitation. Et puis c'était vraiment de la... Voilà, on allait à Biarritz, on allait pédaler dans l'eau. Enfin, et c'était... Et puis c'était aussi réservé aux vieux, quoi. Et j'avais tous mes potes qui me disaient... j'arrêtais pas de dire, il ne faut pas savoir, comme c'est génial. J'avais trouvé un cours dans une école d'ingénieurs dans Paris, à Montparnasse. Et j'avais négocié avec la fille. Elle m'a dit, bon, OK, vous n'êtes pas de l'école, mais venez, tout ça. Et mais j'arrêtais pas de dire à mes potes, mais il ne faut pas savoir, c'est trop génial. Et là, c'est la meuf, c'est bon avec ton sport de vieille. Enfin, je dis, mais vous allez faire musette parce qu'un jour, vous verrez, on fera tout dans l'eau. C'est tellement extraordinaire, on fera tout dans l'eau. Mmh. Moi, j'étais archivisionnaire quoi, parce que c'était il y a longtemps.
On accouche dans l'eau aujourd'hui.
Mais on fait tout. Et là, OK, mais j'avais toujours ce bonnet de bain. Et en fait, un jour, c'était en 2006 quand même, hein, ça remonte à loin. En 2006, j'arrive à un cours d'aquagym au Waouh, où j'étais inscrite. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais en avance, jamais je fais ça. Je m'installe, je m'assois au bord de la piscine et je regarde une nana nager avec son bonnet et ses lunettes et je me dis, dans ma tête, je dis, mais qu'est-ce que t'es moche. Et j'avais elle dans la main, je feuilletais, je ferme elle, je vois la photo de Sharon Stone dessus et je dis, ben, on ne sera plus jamais moche parce que moi, je vais faire un super joli bonnet de bain.
C'est-à-dire, si Sharon Stone devait porter un bonnet de bain, comment faire en sorte qu'elle ne soit pas moche?
Voilà. Non, en fait, à l'origine, je voulais faire des bonnets trompe-l'œil. Et comme elle venait de couper ses cheveux et que toute la presse en parlait de ses petits cheveux courts et ça, je me disais, tiens, je vais faire un bonnet trompe-l'œil avec, comme ça, je pourrais avoir la petite coupe de Sharon Stone ou le carré de Louise Brooks ou le chignon de Grace Kelly. Enfin, bon, bref, j'étais partie là-dessus. Donc j'étais, et puis je suis sortie de mon cours en disant, mais attends, j'ai l'idée du siècle, j'ai une idée de génie. Voilà, c'était 2006, j'ai continué à bosser, parce que moi j'ai été, c'est pas du tout mon métier, moi, je suis
on
pas
va y
du
revenir
tout de la
après,
mode.
Ouais.
Et j'ai continué à bosser et j'ai commencé à emmerder tout le monde avec mes bonnets de bain. Et là,
Idée fixe.
Ma fille a tatoué sur son avant-bras, idée fixe. Le nom de sa mère.
C'est vrai.
Mon père m'appelait idée fixe.
Et je promets que j'étais pas au courant.
Et ma fille, elle a tatoué idée fixe là. Donc c'est moi en fait, qui suis sur son bras. Et j'ai jamais lâché l'histoire. Mmh. Jamais.
Alors, j'ai plein de questions. Mmh. La plus saugrenue d'entre toutes. Pourquoi est-ce que vos grands-mères portaient un turban?
Alors, allez savoir. Parce que c'était l'accessoire pour faire comme si elles étaient des nageuses avec
D'accord.
nous. Nous, les petits-enfants, tous les petits-enfants, on s'est battés dans l'eau. Elles étaient là, elles ne savaient pas nager, mais elles voulaient faire partie. Donc, elles avaient relevé leurs cheveux. Ma grand-mère, elle avait des cheveux longs jusqu'en bas du dos. Et elle relevait ses cheveux. Et elle était voilà, comme ça. Pour... En fait, c'est peut-être de là aussi que me vient le truc, parce que mon bonnet de bain, il n'est pas imperméable. Je vous expliquerai pourquoi. Il est déperlant. Et donc l'eau glisse plus ou moins dessus si vous immergez pas dès que vous mettez la tête sous l'eau, il est hydrophile. Mais en fait, cette espèce d'accessoire, je pense que ça leur donnait l'impression d'être des naïades.
Et pourquoi est-ce qu'on en mettait aux enfants? Parce que pour pas vous démêler les cheveux ou
Oui, je pense que c'était pour pas abîmer les cheveux. Je pense que c'était pour les otites. Parce que moi, j'ai passé tous mes étés avec des otites. Évidemment, 2 mois dans l'eau, sous l'eau, je passais mon temps à avoir de l'huile chaude dans l'oreille parce que j'avais des. Et je pense que peut-être il y avait cette espèce d'idée qu'en mettant les bonnets, on aurait moins d'otites.
D'accord. Donc, pour revenir à votre parcours, à l'époque où donc l'idée fixe est là, mais vous saoulez tout le monde, vous faites quoi?
Je suis directrice marketing com de chez Alexandre de Paris, accessoires de cheveux, comme quoi, quand même, tout tourne autour de la tête.
Donc ça, vous avez fait votre première partie de carrière là-dedans ou bien...
Alors moi, j'ai fait toute ma carrière dans la com.
Ouais. D'accord.
Et depuis 10 ans, je suis donc, par hasard, chef d'entreprise. Ouais, j'ai commencé à travailler dans la com alors que le mot n'existait pas encore. Voilà, on parlait marketing dans les années 80. Et on a commencé à parler de communication un peu plus tard. Et c'est... Alors moi, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec donc, l'univers ni de la mode ni du sport. Je ne suis pas une grande sportive, je n'ai pas fait l'IFM ni quoi que ce soit. Moi, j'ai fait les langues orientales. Donc, on est loin, loin de cet univers. C'est-à-dire que je parlais déjà plusieurs langues et que j'ai toujours une passion pour l'Asie et notamment la Chine. Et que je lisais tout Pearl Buck, tout ça, Cao Ximi, j'adorais ça quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu mon bac, comme ma sœur et mon frère étaient passés avant moi et qu'ils avaient choisi des études conventionnelles, moi, je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, moi, je veux faire du chinois. Ils ont dit, toi, t'es la dernière, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, chic, youpi, j'ai fait les langues zo et je me suis régalée. Et bien sûr, les langues zo m'ont emmenée en Chine. Donc, j'ai vécu en Chine... entre 84 et 86, je ne sais pas si vous imaginez.
À quel endroit?
À Pékin.
Oui, c'était pas très loin d'après Mao.
Non, c'était pas fun du tout.
Ouais.
On était tous en bleu. J'ai vécu à la fac au début, donc dans une cellule avec des rats, avec des portes ouvertes parce qu'on n'avait pas le droit de fermer les portes, avec en mangeant.
C'est-à-dire dans un genre de dortoir parce que vous étiez à la fac là-bas?
Oui. J'étais à la fac là-bas et j'étais avec une camarade italienne dans ma chambre. J'étais la seule française à la fac. Et on vivait dans des cellules. Ouais. Voilà. On avait de l'eau chaude de temps en temps. Et on mangeait je ne sais pas quoi.
C'est bien parce que ça donne un petit aperçu de ce que peuvent vivre les gens qui, aujourd'hui, en Chine, sont exploités à des fins de création de mode. Je pense notamment aux Ouïghours pour l'Occident, donc c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que, finalement, vous arrivez dans la com, enfin, entre les deux? Quel est le parcours?
En fait, j'étais un peu en avance avec le chinois, parce qu'à cette époque-là, quand je suis rentrée en France, ben, j'ai travaillé, donc j'ai été étudiante, puis après, je travaillais pour le gouvernement français, à la vente, vente d'armes, voilà. À cette époque-là, c'était vraiment le marché qui était porteur. Et des hélicoptères, je travaillais pour le gouvernement français. Donc, et ensuite, quand je suis rentrée en France, c'est pas facile de travailler avec le chinois parce qu'il y avait vraiment que ça. Quoi. Mmh. Et je voulais plus rester dans ce milieu-là. Et une amie d'enfance était DRH d'une boîte d'informatique. Elle m'a dit, écoute, viens voir, on cherche quelqu'un qui parle plusieurs langues pour faire la promotion des produits... comment on appelle ça, la bureautique à l'époque, donc, nos produits bureautiques à travers l'Europe. Et comme tu parles plein de langues, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé dans la com. Et j'ai été responsable de communication et des événements et j'organisais toutes les conférences de presse pour notre président qui allait donc faire des démonstrations de ses produits. Donc, il y avait des tableurs, traitement de texte, enfin, tous ces trucs-là qui allaient, voilà. C'était avec le langage aussi C++, enfin c'était vraiment des développeurs à cette époque-là.
Et donc ça, dans une optique d'abord B2B, et dans la deuxième partie, ou la dernière en tout cas avant Cardo, sur les accessoires de cheveux, c'était de la com en B2C, ou c'était aussi pour la vente grossiste?
Alors les deux, entre les deux, j'ai eu plusieurs postes. J'ai été manager de la com, interne chez Disney aussi. Donc j'ai eu la chance de rentrer chez Disney 3 ans avant l'ouverture, donc à un moment où c'était encore des champs de betteraves. Et j'ai donc eu la chance d'être manager de la com interne et d'avoir pour charge de motiver les 18 000 employés que nous serions à l'ouverture. Donc ça a été 4 ans, donc 3 ans avant l'ouverture, 1 an après l'ouverture. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour être l'adjointe du directeur en charge du grand opening. Donc j'ai vécu cette aventure Disney pendant 4 ans. C'était, alors je vais dire un peu comme les mecs qui ont fait leur service militaire. Voilà. Il y en a qui disent, moi j'ai fait l'Indo, machin, moi j'ai fait Disney. 4 ans. 4 ans sans week-end, sans vacances, 4 ans à être à 4 heures du mat sur le parc. Mes copains de Disney sont mes frères. Mmh. Voilà. On a fait le pacte du sang. On a vécu mon meilleur copain, et je l'ai embauché chez Disney il y a plus de 30 ans. Et ce qu'on a vécu ensemble, c'est inoubliable. Alors, pour moi, c'est un peu une secte, beaucoup, mais c'était exceptionnel. Jamais je n'ai retrouvé un tel esprit de corps. Oui, l'armée. Je pense que c'est ça.
Et donc, l'aventure se termine au bout de 4 ans parce que la mission est remplie?
Parce qu'après l'ouverture, c'est devenu très chiant.
D'accord. Vous avez quand même besoin de bouger souvent et de faire de nouvelles choses.
Oui.
Entre, moi, entre l'armement, les maillots, les accessoires de cheveux et Disney.
Ah oui, non, rien à voir. Après, j'ai dirigé le studio Harcourt aussi. Et là, je me suis régalée parce que là, c'était complètement... c'était un monde de paillettes. Et encore, bon, c'est ce qu'on voit. Mais c'était super dur parce que avoir aujourd'hui un studio photographique avec des photos à 1 900 €, c'était pas du tout évident. Mais je me suis vraiment... j'ai adoré... Alors moi, je suis pas du tout fan. C'est marrant. Je pourrais pas m'attendre à une star pendant des heures dans le. Voilà. Enfin, il y en avait peut-être une. Elle est morte, Audrey Hepburn, que j'adorais. Mais je suis pas. J'ai pas cet esprit fan. Mais j'ai adoré quand même en recevoir ces gens, les voir passer dans la lumière. C'est trop génial. Les voir se faire maquiller, entendre leurs doutes. Leurs interrogations, quand vous entendez une Fanny Ardant qui vient pour une interview, je lui dis, vous voudriez poser pour nous? Parce qu'en fait, plus les stars posent, plus les particuliers viennent. Donc je lui dis, est-ce que vous voulez poser? Et elle me dit, ah ben non, mais elles sont belles. J'ai dit, oh, d'accord, si vous n'êtes pas belle, je sais pas qui peut être belle. Mais c'est magnifique de voir, bon, il y en a certains, il ne faut pas les connaître, mais d'autres, c'est vraiment, c'est toucher du doigt un monde, enfin, j'avais l'impression de rentrer dans The Artist, quoi. Mm.
C'est incroyable parce que très naïvement, quand on vous entend, quand on entend ce parcours et en plus donc la multiplicité des terrains de jeu, entre guillemets, et de travail, plus le fait que vous ayez bossé dans la com, on se dit, en fait, lancer une marque, c'est peanuts, quoi, après tout ça. Et finalement, au début de l'épisode, on a plutôt l'impression que à 50 ans, du coup, vous êtes la start-upeuse fraîchement née, qui reprend des études d'entrepreneuriat, qui découvre à la fois aussi le produit, parce que jusqu'ici, vous aviez entre les mains que des services, enfin, en dehors des éco, mais c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Comment vous êtes entrée, en fait, dans Cardo? Vous étiez confiante et ça s'est passé comme prévu ou pas comme prévu, ou au contraire, vous aviez une attitude super humble et ça a été un apprentissage continu?
Alors, une grande, grande dose d'inconscience, hein. Jamais, et encore, et
ça fait du bien à beaucoup d'entrepreneurs.
Non, mais c'est faux et pas faux. Et c'est faux et pas, parce que ma mère était chef d'entreprise et j'ai détesté que ma mère soit chef d'entreprise.
Elle faisait quoi?
Elle était dans le transport. C'était dans un monde d'hommes. C'était horrible. Je la voyais jamais. C'est une petite bonne femme d'1m55 qui était là tous les matins sur son parking avec tous ses chauffeurs. Elle avait des bus, des autocars de tourisme. Elle avait une boîte qui s'appelait Radio Fret qui était les anciens coursiers. Enfin, c'était dingue. Et j'ai détesté parce que je la voyais jamais. Et je trouvais ça. Et j'ai dit, mais jamais je ferais ça, moi. Mais jamais de ma vie. Et moi, je suis une excellente seconde. Voilà. Il faut qu'il y ait un patron. Et moi, derrière, moi, j'adore être dans l'ombre. J'adore faire les trucs. Quand j'ai voulu faire mes bonnets de bain, moi j'étais sur le produit à mort. Et puis à un moment, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu présenter mes bonnets de bain au salon de la lingerie. Mm-hmm. Mais vous ne pouvez pas vous présenter si vous n'êtes pas en société.
Alors attendez, parce que là on grille un tout petit peu des étapes, on va revenir à ça, mais avant ça, donc la genèse vraiment, donc vous donc du coup vous avez créé le produit avant de monter votre entreprise, c'est ça?
Ah oui, oui.
Ok, d'accord. Donc comment est-ce que vous procédez? Vous faites donc étude de marché, il n'y a pas a priori rien qui vous satisfasse?
Je vais vous dire, attendez, quand même, il faut être absolument cinglé. Quand je regarde dans le rétro, je me dis, mais il faut être cinglé. Aujourd'hui, je ne le referai pas. Sans rien, je ne le ferai pas. Vous avez de la littérature, vous m'avez demandé le nom d'un livre éventuellement pour un peu... Bon, là, il y en a eu un qui est sorti cet été, qui est génial, Les Dessous du maillot de bain d'Audrey Millet, qui est top. Mais à l'époque, replaçons-nous déjà en 2006. Moi, je parle des bonnets de bain. Donc déjà, on n'est pas dans le maillot déjà, hein, on est déjà dans un truc encore plus niche, le bonnet de bain. Il n'y a aucune littérature sur le bonnet de bain. Mais rien, quoi. Enfin, rien. Et j'arrêtais pas de me creuser les méninges. Et je me disais, mais comment, qui va pouvoir me donner... Alors, j'avais appelé l'IFM, tu vois, qui me dit, madame, on n'en sait rien. Enfin, franchement, on peut vous dire que les femmes achètent un maillot et demi, enfin, la tranche de 17-25 ans. Enfin, là, ça est décortiqué, ça c'est très... Mais je me dis, mais je m'en fous des maillots de bain. Les bonnets de bain, parce que moi, j'ai jamais voulu faire de maillot de bain. Jamais de ma vie, je ferais de maillot de bain. Et donc, j'étais là sur les bonnets. Et un jour, j'ai eu l'illumination, je me suis dit, putain, mais d'où ils viennent ces bonnets? J'ai dit, bah, évidemment, de Chine, j'étais persuadée que tout venait de Chine. Donc j'ai appelé les douanes. Mais attendez, je ne sais même pas comment j'ai eu cette idée. J'ai appelé les douanes.
Je
ne
sais même pas comment on trouve le téléphone
des
douanes.
Je ne sais même pas, aujourd'hui, je ne sais même pas comment je... Parce que même à l'époque, ce n'était pas encore... J'ai appelé les douanes et j'ai dû passer de bureau en bureau et j'expliquais aux gens, voilà, je vais faire un bonnet de bain. Hein. Les gens disent, mais celle-là, la pauvre, elle est complètement jetée. Et un jour... J'arrive à avoir une dame hyper sympa qui rigole et qui me dit eh bah, ça, c'est la première fois qu'on me demande ça. Je dis ah bon, bah, très bien. Je dis, vous pouvez me dire d'où viennent les bonnets de bain, combien on en importe en France et tout ça. Elle me dit mais oui, mon petit, je vais vous dire ça. Je dis non, mais vous rigolez ou quoi? Elle me dit non, je vais vous les donner. Et l'autre jour, en triant mes mails, je les ai retrouvés, les mails de cette dame. Et elle a commencé à m'envoyer des tableaux. Oh là, les tableaux. Oh, des tableaux Excel. Mais j'ai commencé à trier parce que bon, il y avait. Les bonnets, mais dans les bonnets, il y avait les palmes, les lunettes, enfin, il fallait trier. Mais à un moment, donc, je me suis calmée avec les tableaux et je me suis dit, bon, allez, je vais quand même réussir à trouver les données. Et j'ai trouvé qu'en fait, on importait 6 millions de bonnets de bain par an en France.
Ah oui. Donc,
je suis pas douée en chiffres, mais vous prenez 15% du marché, pas mal déjà. Et là, j'étais là, l'idée de génie. Voilà. Et c'est comme ça, l'inconscience, et je me suis dit, bah, y a un supermarché à prendre là. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Par un excès de confiance en soi, on va dire. Et c'est comme ça qu'en fait, quand Eurovet m'ont dit maintenant, il faut que tu sois en société, je bois pas. Allez, vas-y. Et je me suis laissée. J'ai fait une SAS. Voilà. Je sais même pas pourquoi, mais enfin, me demandez pas. Mon compagnon de l'époque m'a dit il faut faire une SAS. J'ai fait une SAS. Et moi, ce qui m'importait, c'était d'être sur le salon. Voilà.
Et donc, le premier modèle de bonnet, est-ce qu'il y en avait plusieurs ou est-ce que c'était vraiment un bonnet? Est-ce que c'était un prototype? Enfin, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du choix des matières, de comment vous avez procédé pour ça aussi? Parce que donc, le marché existait, il fallait le conquérir, mais pour le conquérir, il fallait un produit.
Ouais. Donc, Alors, j'ai regardé une émission qui s'appelle Capital. Parce que, évidemment, comme je n'y connais rien, je ne sais même pas ce que c'est, tissu, chaîne, tram, machin, pauvre fille, pauvre, vraiment l'ingénue parfaite. Et un soir, j'entends une bande-annonce que sur Capital, on va parler de tissu. Puis bon, voilà. Mais vous savez, comme si j'arrivais devant la mer et que tout s'ouvre et qu'on me présente tout comme ça. Donc je me suis dit, tiens, je prends une enveloppe d'un magazine que j'avais reçu, je prends une enveloppe Kraft que j'ai toujours et je me fous devant la télé avec mon plateau et j'écoute cette émission que j'adorais. À l'époque, c'était Emmanuel Chin. Et là, il commence à parler des tissus intelligents, des tissus qui sèchent vite. Replacez-vous encore, il y a plus de 10 ans. Mm-hmm. C'était super révolutionnaire. Et je buvais les paroles de ces reportages. J'ai dit, mais c'est trop génial. Et donc, il parle de tissus. Et à la fin, on voit un Italien qui vient présenter un tissu et il déroule un rouleau comme ça. Il prend un verre d'eau. Et il balance l'eau comme ça sur le truc. Et là, je me lève, je dis, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé, ça y est, mon truc, il est fait. En fait, ce que j'ai fait, quand j'ai vu ça, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait un salon qui s'appelait Marais di Moda, dans le sud de la France. J'ai pris un billet d'avion, je suis allée au salon. Le problème, c'est que j'arrive au salon. Bon, j'avais pris, je sais plus, j'avais acheté des billets, ben, bref. Mais j'étais pas, là, j'étais pas encore en société. Je vous parle avant d'avoir fait en société. Et que déjà, pour rentrer dans un salon professionnel, quand vous avez pas de boîte, c'est compliqué. Comme si c'était Fort Knox, quoi. J'ai réussi à rentrer. Et là, le régal. Parce que là, il y avait plein d'Italiens. Alors, je me serais cru sur un marché à Bergame, quoi. Les mecs étaient là, signorine, signorine, venez, venez, venez voir, venez voir. Et moi, je cherchais, j'avais dans ma tête le truc que j'avais vu à Capital. Donc, je rentrais sur tous les stands et j'étais là, je faisais la fille super inspirée et tout ça. J'essayais de faire à la pro parce que je dis, mais ils vont pas me prendre au sérieux. Et j'arrive donc dans, j'ai vu plein d'Italiens et je trouvais pas, je dis, c'est pas possible, c'est pas possible, j'avais pas le nom, il avait pas donné le nom à la télé. Et à un moment, donc tous les Italiens haranguaient tous les clients en disant venez voir, venez voir, venez voir. Et à un moment, alors ils vont m'en vouloir de raconter encore cet épisode, je rentre sur un, je vois un stand magnifique, bleu, blanc, rouge, la France. Et là, personne ne m'attend, ils sont tous en train de prendre un café, dos à l'entrée du stand. Et je commence à regarder les trucs et tout à coup, je tombe sur un tissu. Et je dis, ah, les mecs, bingo, c'est lui. Et donc, je prends le Aubrac et j'attends. Et eux, ils sont en train de prendre leur café avec leur croissant. Et à un moment, je... Excusez-moi. Et un des types se retourne comme ça. Il me dit, oui. Je dis, vous pouvez m'aider avec ce tissu? Et il me regarde comme ça, il dit, il est très cher. Et là, je lui dis, monsieur, vous devriez vous retourner parce que vous avez devant vous une future milliardaire. Et il éclate de rire. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, non, monsieur, là, s'il vous plaît. Et ça a été le début d'une espèce de, d'un vrai combat. Alors que si vous avez des jeunes entrepreneurs qui m'écoutent, là, moi, il est fixe. Hein. Je ne lâche jamais. Si vous avez l'intention d'être entrepreneur, il faut vraiment ne jamais avoir envie de lâcher, quoi. Parce que ce type, il a mis des mois à bien vouloir m'envoyer du tissu. Alors que j'étais là, je lui dis, monsieur, je vous paye, je fais un virement tout de suite, je veux ça, nanana. Il ne voulait pas. Il a fallu que je lui écrive des mails en 36 pour lui dire, mais donnez-moi, envoyez-moi le tissu, je vous envoie l'argent, vous m'envoyez le tissu.
Parce qu'il y avait un protectionnisme.
Mais non, parce que j'étais rien, j'étais pas une entreprise. Et puis qu'il me prenait pour une rigolote. Voilà. Donc en fait, il a enfin... daigner m'envoyer du tissu. Après, je ne sais plus comment, j'ai trouvé une usine dans le Choletais, à côté de Cholet, donc dans le Choletais, qui faisait des bonnets de soutien-gorge. Et j'ai rencontré cette usine qui n'existe plus. J'ai rencontré le directeur technique. Je lui ai raconté ce que je voulais faire. Il m'a dit, attends, je vais faire du vélo et je reviens. J'ai dit, mais il est jeté, lui. Et en fait, Géo trouve tout. En faisant du vélo, il avait des idées. Il réfléchissait. Voilà. Dans l'intervalle, j'ai été prise dans une incubatrice à l'École nationale supérieure des arts et textiles, où je suis allée leur faire mon petit compliment avec mon petit PowerPoint, avec mon histoire, en disant voilà ce que je vais faire. Je vais faire un bonnet de bain. Et vous voyez, le marché des 6 millions, là, je vais en prendre 1% pour commencer. Donc la fille qui arrive complètement allumée, mais les mecs, ils ont dit bah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Et ça a commencé comme ça.
Donc, incubation.
Incubation. Au sein de l'ENSET, il y a l'Innotex. Et donc, j'ai suivi les cours. Ils ont financé mon moule pour faire ce bonnet de bain. Parce que de ce tissu français que j'ai trouvé, vous qui êtes un peu dans la mode, vous savez, un tissu comme ça, plat, si vous voulez le thermoformer et en faire une demi-sphère, si vous le mettez sur un moule, il meurt, il craque, il se déchire, il pleure. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il a fallu qu'avec ce directeur technique de l'usine du Choletais, nous mettions un peu de magie dans ce tissu. Voilà. Et il y a toujours cette magie dans ce tissu, que je ne vous dévoilerai pas, bien sûr.
Parce que, alors, attendez, on a le bonnet pas loin sur la table. Je n'ai pas fait attention en le regardant s'il y avait une couture. Non, effectivement, il est sans couture.
Mon truc, c'était qu'il était sans couture. Ah, je voulais qu'il soit sans couture.
Voilà le truc, parce que sinon, j'aurais dit, bon, ça se plie, on coupe en deux morceaux, on fait deux...
Taratata.
Oui, oui, ça aurait été bien trop facile. Fastoche. Parce que, alors, quel était le cahier des charges à l'époque? C'est-à-dire que, donc, vous avez évoqué le fait que vous aviez une masse capillaire importante, donc ça devait être adapté à tout type de cheveux. Et quelles étaient les autres spécifications?
Je voulais qu'il soit sans couture parce que je ne perds toujours pas de vue l'envie d'en faire des total covering avec des motifs. D'ailleurs, okay. J'en ai fait, je ne l'ai pas apporté là, mais j'en ai avec des motifs, avec des étoiles, avec des carrés et tout ça. Mais il y a encore un peu de développement sur ce produit-là. Mais j'ai déjà vendu les bonnets.
Donc avec plus de volume de tissu, c'est ça?
Pas du tout, c'est le même, mais il est imprimé.
D'accord.
en all over.
Très bien.
Donc ça, c'est une sacrée, c'est encore une autre prouesse technique. Mmh. Et donc, je voulais qu'il soit d'une seule pièce pour cette raison-là. Parce que si vous faites un modèle, par exemple, imaginons que je propose à Hermès de prendre un de leurs carrés et de l'imprimer sur mon bonnet de bain.
Classe.
Et qu'il soit, une fois thermoformé, qu'il soit parfait. Je ne peux pas avoir une couture. Jamais on arrivera. Mmh. Voilà. Donc, en fait, il faut que ce bonnet soit d'une seule pièce. Donc, je voulais qu'il soit d'une seule pièce et je voulais qu'il soit confortable et déperlant. Au minimum déperlant. J'étais persuadée que je pourrais faire un truc imperméable. Et même le patron d'Arena m'a dit « Mais laisse tomber, ça n'a aucun intérêt. » Et même eux, ils ont laissé tomber l'histoire. Parce que le bonnet de bain, on va faire un peu de pédagogie, le bonnet de bain, le ministère du sport, de la Santé et du Sport, il s'en fout que vous ayez les cheveux mouillés quand vous allez à la piscine. Moi, les clientes, elles me disent « Ah oui, mais le bonnet de bain, il faut qu'il soit imperméable parce que c'est fait pour ça. » Je dis « Bah non, un bonnet de bain, c'est pas du tout fait pour que vous n'ayez pas les cheveux mouillés. On s'en fout que vous ayez les cheveux mouillés. D'ailleurs, quand on va à la piscine, en général, on se mouille. Et puis après, même quand on prend une douche, il est vraiment rare qu'on ait une douchette. En général, la douche, elle tombe de là-haut. Donc, à moins de vous contorsionner, je ne sais pas comment vous faites pour sortir sans avoir les cheveux mouillés. Mais on met un bonnet de bain, pourquoi ? Il y a une raison très, très prosaïque, c'est que moi, j'ai des clients qui me disent « Mais moi, mes cheveux ne tombent pas. Ah, seul humain sur les milliards, les 7 milliards que nous sommes, dont les cheveux ne tombent pas. » En fait, je ne sais pas si vous avez déjà, vous qui nagez, vous avez déjà avalé les cheveux des nanas devant vous qui nagent. C'est dégueulasse. Moi, ça me donne envie de vomir. C'est comme quand on trouve des pansements, des cheveux qui surnagent. C'est horrible. Quand on nage le crawl, on avale les cheveux des autres. Donc, en fait, ce bonnet, il est fait. En plus, c'est obligatoire depuis juillet 2010 en France. Hein. Il est fait pour maintenir nos cheveux dans le bonnet. Parce que les cheveux qui tombent dans l'eau se dégradent au contact du chlore. Ça fait des vapeurs de chloramine épouvantables qui vous grillent les poumons, tout simplement. Alors, il y a aussi une première chose, c'est que ça bouche les canalisations.
Oui, bien sûr.
Déjà ça, une fois que les canalisations sont bien bouchées, ça macère et ça fait ça. C'est pour ça qu'on vide les piscines, malgré tout, deux fois par an. Et c'est pour ça que certains maîtres nageurs qui sont là pendant des années ont des problèmes de poumons. Parce que ces vapeurs de chloramine sont extrêmement toxiques.
Le fait d'avoir démarché quelqu'un, donc l'usine technique en France, c'était un parti pris pour une fabrication française ou c'était parce que c'était plus simple dans un premier temps ?
Non, moi, c'est le parti pris. Moi, je suis française, je suis franco-corse.
D'accord.
Je suis cocorico. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça paraît un peu tellement... C'était déjà vu, mais moi, déjà, il y a plus de 10 ans, je me voyais... Alors, pourtant, j'ai des acquaintances avec la Chine. J'aurais pu facilement, parce que j'ai... En ayant travaillé pour Alexandre de Paris, je connais des distributeurs, j'aurais vraiment pu m'amuser. Mais ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je suis artisan. Hein. Je fais tout juste si je ne coupe pas mes trucs toute seule. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est même pas une évidence. C'est soit c'est français, soit je ne fais pas. Et aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, mais tu pourrais être moins cher en allant... » Bah, j'arrête. Ça ne m'intéresse pas.
Alors, est-ce qu'on peut avoir du coup une idée du positionnement prix ? Donc en vente directe, par exemple, sur le site Cardo, un bonnet, et puis après, on va parler du reste.
Les bonnets sont à 39 euros. D'accord. Alors, je gagne pas du tout d'argent sur les bonnets.
Oui, ce qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus cher qu'un Speedo à 10 balles dans le distributeur de la piscine municipale, mais ce qui n'est pas du tout
derrière,
le même produit.
Mais derrière, il y a une histoire, il y a un tissu magnifique français, il y a une technologie. C'est une petite bombe de technologie, hein, de 50 grammes de technologie. Ah, et en plus, ils sont jolis, ils sont assortis au maillot. Il y a une espèce de... Quand même, il y a une élégance. Enfin, parce que quand vous me parlez de l'ADN de Cardo, vous me posiez des questions sur l'ADN de Cardo. L'ADN de Cardo, c'est ça. C'est l'élégance, quoi. C'est l'élégance. J'ai très modestement, hein, au départ, donc il y a 10 ans, avec ce bonnet de bain, je me suis dit, bon, on va faire un truc joli et qui ressemble à quelque chose. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion de... Enfin, qu'on m'a poussé à faire les maillots, je me suis dit, ben, je vais faire tout ce que je ne trouve pas. Tout ce dont je rêve et que je ne trouve pas. Parce que les maillots sportifs sont moches. Enfin, ça, c'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est vrai pour moi. Et Dieu sait si j'ai nagé avec des arénas, des speedos, et je salue mes amis d'arénas. Mais c'est pas joli. Aujourd'hui, alors vous encore plus, hein, vous les jeunes qui connaissez l'athlégeur et qui êtes nés avec l'athlégeur pratiquement, tout est joli pour faire du sport. Tout, sauf quand on doit se mettre à poil et qu'on doit aller à la piscine.
Alors, justement, qu'est-ce qui se passe après ce premier salon dont vous créez votre SAS, vous présentez vos bonnets?
Ben, j'en vends un petit peu.
Un petit peu, donc en B2B.
En B2B.
Vous trouvez des distributeurs.
Oui.
Et à quel moment... Alors,
oui.
Allez-y.
Oui, je vous en prie.
Non, j'allais dire, à quel moment, d'une part, vous décidez de lancer votre distribution directe en ligne, et ensuite, vous vous mettez à élargir la gamme produits.
Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce salon, pour faire la promotion de ces bonnets, au début, j'ai utilisé ma fille et ses copines pour faire des photos. Mais bon, ce n'est pas des pros, c'était des jeunes filles. Et je me suis dit non. Et j'ai trouvé sur Facebook une troupe de nageuses synchro qui s'appelait les Las Vegas Water Beauties, qui était à Las Vegas. Et donc, je leur ai écrit. Je leur ai écrit en disant « Est-ce que vous ne voudriez pas tester mes bonnets de bain ?» Et elles m'ont répondu en anglais. Oui, bien sûr, on peut tester tes bonnets de bain. But Cardo Paris, but alors you're French. Et donc, on a commencé à discuter comme ça. Et il se trouve que la leader de cette troupe était française. Mm-hmm. Et qu'elle officiait dans les spectacles à Las Vegas, qui s'appelait Le Rêve. Et que cette troupe était constituée de plein de jeunes femmes qui avaient été en compétition les unes contre les autres aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008.
Waouh.
Et qu'une fois qu'elles raccrochent les maillots, ces filles, parce qu'à 25 ans, elles ont fini leur carrière, elles se retrouvent dans ces grands spectacles. Donc, à Las Vegas, dans les grands shows. Et donc, RL était la leader de cette troupe, avait constitué cette petite troupe en plus pour s'amuser un peu et faire des jolis spectacles pour les riches végasiens et aller faire des spectacles dans des soirées et faire des petites animations. Voilà. Et donc, elle m'a tout de suite dit, mais oui, vas-y, envoie-nous tes bonnets, on va les tester. Parce que tout est moche dans les bonnets. Nous, on customise nos maillots, mais les bonnets de bain, on ne trouve jamais rien. Ben, bien sûr. Donc, je lui ai envoyé mes bonnets de bain. Et elle me dit, mais c'est top. Bon, il faut les serrer un peu plus parce qu'on fait des sopères et tout ça. Et en discutant avec elle, parce qu'on faisait on était en 2013.
En conf call.
Ouais. Skype. On se parlait et j'ai commencé à lui dire, à un moment je lui ai dit c'est dommage que vous ne soyez pas en France parce que j'aurais bien fait un shooting avec vous parce qu'elles sont vachement jolies, les filles de ton équipe. Elle m'a dit, bah idiote, viens, c'est toi qui viens. Et je dis, bah oui, je suis bête. Et je lui ai dit donc, bah voilà, je vais venir avec mes bonnets de bain. Et on a commencé à faire écrire un petit script. Et puis un jour je lui ai dit, ouais d'accord, elle met tes maillots, ils sont trop moches quoi. Elle m'a dit, mais je m'en fous, t'as qu'à en faire un. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dessiné un maillot de bain que j'ai fait faire en 7 exemplaires, parce qu'elles étaient 7. Et j'ai fait un maillot de bain homme, parce qu'il y avait un homme dans leur troupe. Benoît. Voilà, il y avait 7 filles et Benoît. Et donc, j'ai fait ces maillots de bain, et mais voilà parti avec Pierre-Anthony Allard, qui était le photographe du studio Harcourt. Mm-hmm. Et nous voilà parti à Las Vegas pour faire le shooting des bonnets de bain. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. On a fait un shooting et une petite vidéo qui s'appelle Le Casting, que vous pouvez voir sur YouTube. Le casting, et on voit donc les filles en train d'évoluer avec les bonnets et les maillots de bain. Ceux que j'avais dessinés juste pour cette occasion. Mais j'avais aussi dessiné un bonnet de bain. Enfin, j'avais aussi demandé à Swarovski de me cristalliser bonnet et maillot de bain. Et j'avais eu la licence pour... parce que quand je travaillais chez Alexandre de Paris, je connaissais les nanas de chez Swarovski qui m'avaient fait une licence et donc j'ai pu cristalliser des maillots et des bonnets de bain.
Donc Doja Cat n'a rien inventé, qui sort de cette Fashion Week avec, je ne sais pas si vous avez vu, on mettra les images en référence, mais qui est une chanteuse qui s'est fait recouvrir de Christos Swarovski, de la tête aux pieds, y compris le visage, et façon morsoute, quoi. Donc voilà, petit clin d'œil.
Rouge.
Voilà, ouais. Actuellement.
Ça m'a effrayé, mais bon.
Mais donc, vous partez avec vos maillots couverts de Swarovski
pour
ce shooting.
Voilà.
Et là, à des fins de distribution grand public, du coup.
Alors oui, c'était pour faire des photos, pour mettre sur mon site, qui n'était pas du tout marchand à l'époque, hein, parce que c'est pareil, la technique, le web, machin, ça c'est ouh là, c'est une grande inconnue pour moi. Et donc, me voilà de retour à Paris avec mes petites photos, magnifiques, hein, parce que quand même prises par Pierre-Anthony Allard. Et un jour, je reçois un appel d'une dame qui me dit, il paraît que vous avez des jolis bonnets de bain. Et je dis oui. Et elle me dit, vous pouvez me les montrer? Je dis, bah, écoutez, Ma PLV n'est pas finie, je n'ai pas mis mes logos, tout ça. Je vous rappellerai. Elle me dit, oui, d'accord, vous pouvez me rappeler quand. Je sais pas, dites-moi qui vous êtes. Je prends mon truc pour noter. Elle me dit, voilà, je suis le bon marché. Et je dis, écoute, je vous rappellerai. Je note. Le soir, j'ai un dîner avec des copains, tous des cols blancs, qui se foutent toujours de moi en disant, alors, elle s'amuse avec ses petits bonnets. Quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot? Quand est-ce que tu vas retourner bosser? Quand est-ce que tu vas regagner de l'argent?
Parce qu'à l'époque, vous aviez donc du coup arrêté l'activité forcément pour être full-time sur la marque.
Ah oui, non, j'ai été virée de mon dernier poste.
D'accord. Ouais. Ça facilitait aussi, c'était facilité. Un des signes.
C'était exactement.
De l'ouverture de la mer.
Je me suis dit, mais tout arrive. Et j'étais dit, justement, j'ai un peu de sous, parce que l'autre, il a été obligé de payer pour que, parce qu'il ne faisait pas une bonne action. Et donc, je me suis dit, mais génial, mes enfants sont pré-ados. Ils sont bien élevés, tout le monde, tout est sur les rails, mais top. Mais moi, je vais faire ce bonnet en 3 mois. Il m'a fallu 3 ans, tous mes sous. Alors, les jeunes qui entendaient, 3 ans et tous mes sous. Et j'en ai rien à faire. En fait, c'est dingue, je m'en fous complètement de l'argent. C'est ça le drame, c'est que je ne suis pas une femme d'argent. C'est que pour moi, l'argent, c'était un moyen, quoi. Et que ça m'est égal de dépenser, d'acheter des tissus, des trucs comme ça, parce que c'était ma cause. Ma cause. J'avais l'impression que j'étais destinée à faire ce bonnet de bain, que j'allais conquérir le monde avec ce bonnet de bain. Et donc, le soir, j'ai ce dîner avec les copains, et donc, ils se foutent de moi, encore une fois, et je leur dis, ouais, mais enfin, figurez-vous qu'il y a un magasin qui m'a appelé aujourd'hui. Et ils disent, ah, vas-y, quel magasin? Je dis, le Bon Marché. Et là, silence de mort. Et ils me disent, et qu'est-ce que t'as dit? Et là, je me rends compte. Parce que, évidemment, je connais le Bon Marché. Évidemment, je connais le Bon Marché. Et là, je dis, je leur ai dit que j'allais les rappeler. Et là, j'ai un de mes potes qui me dit, tu es la seule folle au monde qui dit au Bon Marché, je vais vous rappeler. Le lendemain matin, j'ai rappelé. J'avoue que j'ai rappelé. Et ils ont acheté des bonnets de bain. Ils achètent plein de bonnets de bain. Super. Très contente, mais bon. Sans plus. J'étais contente, mais bon. À la fin de la saison, je les appelle. Enfin, je passe même au Bon Marché. Je vois l'acheteuse qui est hyper sympa, qui est toujours là, d'ailleurs. Et je lui dis, c'est quoi l'histoire? Elle me dit, écoute, on a vendu 80% de ce qu'on t'a acheté. Oh, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Elle me dit, t'es désolée de quoi? Je dis, vous n'avez pas vendu 100%. Elle me dit, t'es vraiment une truffe, Emmanuel. T'y connais vraiment rien, quoi. Et je lui dis, oui, pourquoi? Elle me dit, parce que 80%, c'est génial. Voilà. Et les dames qui ont commencé à acheter, qui ont acheté les bonnets de bain au Bon Marché, ont regardé mon site. Et sur mon site, j'avais ce petit film de Las Vegas. Et elle voyait les maillots. Donc elle commençait à m'envoyer des SMS et des mails et des petits messages en disant « Je voudrais le maillot qui va avec le bonnet de bain. » Moi, j'ai répondu 50 fois « Non, je ne ferai jamais de maillot. » J'ai répondu tout le temps « Non, je ne ferai jamais de maillot. Voilà. » Jusqu'au jour où l'acheteuse du Bon Marché m'a dit « Écoute ton marché. »
Et le parti pris de ne pas faire de maillot, parce que finalement, vous-même, vous aviez...
Parce que je ne sais pas dessiner.
Non, bien sûr, mais l'idée d'avoir quelque chose... Déjà, pourquoi pas de faire dessiner par quelqu'un d'autre, mais d'avoir quelque chose d'assorti. Et finalement, vous disiez aussi que même si l'offre, esthétiquement, elle s'était un peu améliorée pour faire du sport, aujourd'hui, les maillots restent moches. Mmh. Et la majeure partie, en plus, sont fabriqués un peu n'importe comment, dans des tissus qui, techniquement, ne sont pas satisfaisants. Mmh. Donc, c'était finalement le... Ouais, le fait que vous n'ayez pas envie de faire, de, comment dire, de donner de l'ampleur à la marque en allant sur d'autres produits.
En fait, j'étais pas du tout, je suis pas, encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai du mal à me dire, moi j'ai envie de conquérir le monde. C'est une illuminée. Hein. Moi, ce que je veux, c'est rendre les femmes belles. Alors, ça ne devrait pas être que ça. Quand j'ai fait l'entreprise, mais en fait, quand j'ai eu Bon Showroom et que je voyais les femmes venir. Et me dire, mais moi, je suis en 48, je suis moche, je trouve rien. Et quand je les voyais sortir de la cabine, avec les larmes aux yeux, quand elles se regardaient et qu'elles disaient, mais je suis belle, merci, oh, mais c'est la première fois que j'ai un joli maillot, et qu'elles sortaient de la cabine en se mettant les mains sur les hanches comme ça. Moi, je comprends que les mecs, ils aient le melon, les mecs, ils font de la mode, parce que quand vous rendez les femmes belles, vous êtes le maître du monde, en fait. Et c'est tellement dur, c'est tellement difficile. Pour moi, le maillot de bain, et alors le maillot de bain de sport en plus, c'est la pièce du vestiaire féminin la plus difficile à acheter.
Oui, C'est hyper irritant comme expérience.
Vous achetez un manteau, des jupes, des chemises, des chaussures, tout est fastoche à essayer, même si bon, on se dit « bon, ben, j'ai trop de fesses ou j'ai pas de taille ». Mais se mettre à poil, quand on est blanche, poilue, enfin, qu'on n'est pas au mieux de sa forme, qu'on doit aller acheter un maillot de bain avec des lumières rasantes, horribles, les mecs, ils n'ont toujours pas compris comment il faut faire des lumières dans des cabines d'essayage, et qu'avec 60 cm de tissu, il faut qu'on ressemble à quelque chose, et que non seulement on ressemble à quelque chose, et après on vous dit, une fois que vous l'avez sur le dos, tu sors dehors devant tout le monde. Donc le maillot de bain de sport, la plage c'est encore autre chose, parce qu'on peut encore avoir des subterfuges, on peut être plus ou moins bronzé, on peut avoir fait des LPG avant, enfin des trucs. Le sport, quand vous y allez et que vous êtes dans cet univers-là glacial de la piscine, parce que c'est quand même pas le truc le plus chaud et chaleureux de la Terre, et que vous devez sortir de votre cabine et que vous devez ne serait-ce que traverser les 20 mètres jusqu'au bassin, ils sont cruels ces 20 mètres. Alors moi quand j'avais 20 ans, j'en avais rien à faire, plus on voyait mon cul, plus j'étais contente. Aujourd'hui, à 60 ans, c'est pas du tout la même histoire. Et toutes ces étapes, je les ai vécues.
Voilà. Donc l'aventure du maillot...
Il faut soigner le packaging, voyez-vous.
Comment cela ?
On soigne le packaging, voilà.
Donc finalement, il y a une mission dans la mission. À partir de là, le fabricant de bonnets accepte-t-il de fabriquer aussi des maillots ? Comment ça se passe ? Vous les dessinez ? Vous les pensez ?
Alors, le fabricant de mes bonnets, je les faisais fabriquer. Donc j'avais un moule dans une usine en France. Et cette usine me dit, nous on connaît une nana vachement bien à Montpellier qui pourra t'aider à faire, parce que je lui ai dit, ben, je voudrais faire les maillots. Elle me dit, elle pourra t'aider à faire les maillots de bain. Elle est modéliste, elle va t'aider à faire les maillots de bain. Et j'ai rencontré cette dame sur le salon de la lingerie. Je lui ai montré les bonnets et ça a été un coup de foudre. Je dis son nom, Isabelle Brunet, je t'aime, parce qu'on a eu un coup de foudre professionnel et humain. Cette fille, qui a un parcours dans la mode, elle a un gros poste aujourd'hui chez Etam, elle a été travaillée chez Well, elle a eu sa propre boîte. Elle m'a prise au sérieux tout de suite. Jamais elle a été méprisante, jamais elle a été condescendante, jamais elle m'a dit « moi je sais, toi tu sais pas ». Jamais. Et ça, pour moi, c'est l'humanité, c'est primordial. Et quand je lui ai montré les bonnets et qu'elle m'a dit « écoute, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que tu veux que je dessine des maillots pour toi ?» Et pour moi, c'était un congru. Je dis non, c'est pas possible. C'est ma marque. Je ne sais pas dessiner, mais je sais ce que je veux. Voilà. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où on sait, voilà. Donc, j'ai dessiné comme un gosse de 4 ans. Bonhomme tétard. Voilà. Mais on a passé ensemble des heures et je lui ai dit, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux et voilà ce que je veux pas. Et cette femme, elle est tellement brillante. Et puis, je pense que le fait qu'on s'aime, qu'on a eu cette relation incroyable... Elle m'a dit « je te comprends ». Et elle a respecté chacun de mes trucs. Et encore aujourd'hui, j'ai cette chance de travailler avec des gens qui à chaque fois me disent « est-ce que je peux te donner un conseil ?» Et alors, ils me disent tous que pour eux, c'est très rare que quelqu'un, une créatrice, comme moi, dise « oui ». Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'ego là-dessus, parce que moi, je ne sais pas. Donc, quand les gens me disent « est-ce que je peux t'aider ?» Ben oui, moi, je prends. Voilà. Et donc, on a fait ce maillot ensemble, le dive, avec le zip dans le dos.
Donc, le best-seller actuel
voilà,
de la marque.
C'est la marraine. C'est la marraine de mon maillot. Elle l'a tellement bien compris que je crois qu'elle a fait un proto et demi. Ce qui est dingue. Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est dingue d'avoir fait un maillot aussi parfait comme ça. Voilà. Et comme quoi, il vient du cœur, hein, franchement. Et ensuite, on a fait 5 premiers maillots ensemble. Voilà.
Et avec donc la matière qui est la même que celle du bonnet, ou c'était un
non,
autre choix ?
Non, c'est pas la même matière. C'est pas du tout la même matière. C'est un autre choix. Mais le premier dive était avec un tissu français. Zip français aussi. Depuis, j'ai migré. Le tissu, la majorité de ces tissus... Enfin, il y a aussi des tissus français pour faire ce dive, suivant les coloris. Parce que moi, j'adore... Je fais pas de collection. Je fais au gré de mes envies. De mes souhaits, de mes rêves, de ce que je... C'est vrai que la nuit, ça m'arrive de me réveiller en disant « Ah, j'ai envie de ça !» Et donc, on a commencé avec un tissu français, des zip français, et puis après, malgré tout, tous les autres maillots sont dans des tissus, dans les tissus français. Celui-là, il est italien maintenant, mais là, tous ces tissus-là sont français.
Et aujourd'hui, la confection des maillots et des bonnets et des serviettes est encore en France ?
Non. Alors, Isabelle a fermé.
Ouais.
Elle avait commencé, et c'est elle qui m'a fait mes premières prods. Elle a fermé parce que bah, c'était compliqué pour elle de... Elle vivait pas, elle n'en vivait pas, en fait, elle faisait que bosser. Donc, elle a été chassée par un grand groupe, donc elle a raccroché. Je suis partie très peu de temps au Maroc, non, en Tunisie. Mais par contre, j'ai laissé mon moule en Tunisie parce que si je continuais à fabriquer ce bonnet en France, il serait absolument inabordable. Parce que déjà, le tissu est... Je ne peux même pas vous dire le prix parce que vous allez dire « vous êtes folle de fabriquer ça ». Je ne gagne pas d'argent sur le bonnet, mais ce n'est pas grave. Ensuite, moi, je suis d'origine... Bon, je suis corse, mais je suis d'origine de côté de ma mère. On est de la région de Bergame. Et j'ai un attachement viscéral pour l'Italie. Et un jour, je voulais faire ce maillot de bain en contrecollé. Je ne voulais pas de couture. Je voulais vraiment cette espèce de confort. Je n'arrêtais pas de voir des produits contrecollés de plus en plus. Et je voulais ça. Donc, comment faire pour savoir où en France on pouvait trouver faire des maillots de bain contrecollés? Eh bien, je suis partie comme avec l'histoire des douanes. Je connaissais le nom de la machine qui fait du contrecollage. Donc, j'ai appelé l'usine en Italie qui fait ces machines. Et je leur ai dit, vous pouvez me donner le nom de vos clients? Et c'est comme ça que j'ai eu la liste des usines qui avaient cette technique. Mmh. Voilà. Et j'ai appelé. Et à la deuxième usine, je suis tombée sur un monsieur absolument charmant, tout à fait bougon, qui me dit « Oui, si tu veux... » Alors, en italien, parle pas un mot de français, pas un mot d'anglais, pas de français, et qui me dit « Voilà, bah, si tu veux, envoie-moi tes trucs et je verrai ce que je peux faire. » Et donc, j'ai envoyé le dive cousu, du tissu, avec le zip, le machin. J'ai dit « Maintenant, tu me le fais en contre-collé, s'il te plaît. » Et il m'a dit « Ok. » Et il me l'a renvoyé. J'ai trouvé ça bien. C'était vraiment très beau. Et on devait être au mois d'avril. Je lui ai dit, écoute, au mois de juillet, je descends en Italie, en vacances. Je viendrai te voir. Il me dit, oui, bien sûr. Et je suis allée le voir. Et là, ça a été encore un coup de foudre. Parce que c'était un couple, un homme et une femme, qui, depuis 42 ans, font des maillots de bain dans leur maison, avec une usine, avec une équipe de 15 femmes qui étaient là depuis octobre 1980. Une famille. Sa tante y travaillait, elle avait 87 ans encore. Et donc, j'ai rapatrié tout ce qui était en Tunisie, j'ai dit, allez, hop, ici, c'est chez moi. Et je vais faire fabriquer ici, parce que leur savoir-faire, bon, déjà, ils faisaient des maillots pour des marques exceptionnelles. Et donc, j'ai dit, non, mais moi, je veux travailler avec vous. Voilà. C'était mon père et ma mère spirituels, en fait. Et lui, quand il m'appelait, Fiorenzo, il me disait... Ascolta, ti devo dire una cosa. Et à chaque fois, il me disait, il faut que je te dise quelque chose. Il dit, moi, je serais toi, je ferais ça. Et alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu veux faire ça? Et il me disait, pour ça, pour ça, pour ça. Tous les conseils qu'il m'a donnés ont fait que mes maillots sont. Remportent tous les suffrages. Pour moi, les clientes, elles me disent, pourquoi et comment je me sens aussi bien dans le maillot? Grâce à Fiorenzo.
Et alors ça, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut partager, donc qui sont, en tout cas le dive est doublé à l'intérieur?
Il n'est pas doublé, ah. Il est contrecollé.
D'accord, c'est ça, donc le fameux contrecollé, c'est ça.
Il y a c'est deux fois le même tissu qu'on colle, pour avoir cette espèce de ce maintien, mm-hmm. C'est ça que je veux moi,
ouais.
Vous qui nagez. On a envie, déjà il porte un peu dans l'eau, et on a envie, c'est une gomme en fait, il fait office de gomme, parce d'accord. Que quand vous l'enfilez... Il n'y a plus rien qui dépasse.
C'est vrai qu'au toucher, on a un ressenti de comme une combinaison très très fine, en fait, ouais, comme les combinaisons d'apnée. Ouais. Et c'est vrai que la matière est hyper douce. Ouais. C'est difficile de s'en rendre compte sur un podcast, mais
Est magnifique.
On a quand même envie de rentrer dedans. Ouais. Moi, j'ai très peu de poitrine, mais je sais que c'est le pain point justement des nageuses, celles qui ont beaucoup de poitrine. Et là, on a la sensation que ça tient, quoi.
J'ai des clientes qui taillent en E, qui le portent.
Parce que ça, alors on va en parler, vous avez aussi, parmi les difficultés, pris le parti d'être une marque inclusive pour les grandes tailles, enfin en tout cas pour les extrêmes
encore,
de taille.
Et encore là, vous voyez, à New York, où on est vendu à l'Aqua Studio, elle nous demande des plus grandes tailles encore que 48.
Là, vous allez jusqu'au 48, d'accord.
Là, on va jusqu'au 48, ouais.
Et ça pose aussi des contraintes en termes de patron, en termes...
Oui, parce qu'en fait, on ne stretch pas. Alors moi, j'y connais rien, hein, mais encore une fois, maintenant, parce que c'est mon expérience. C'est-à-dire que quand on fait un maillot de bain du 36 au 48, malgré tout, Évidemment, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, ça gratte tout seul. Enfin, c'est magnifique. Mm-hmm. Enfin, à part que chez Fiorenzo, on faisait tout à la main. Hein. Tous les patrons papier. Enfin, vous voyez le truc. Mais on refait quand même des maillots parce que c'est pas. Il faut refaire un maillot, en fait. On refait pratiquement. On ne fait pas qu'étirer le maillot.
Oui, voilà. Bien sûr.
Donc on réessaye, on repositionne certaines choses parce que sur une femme qui fait du 50, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que sur une gamine qui fait du 36, quoi. Donc il y a quand même une petite adaptation. Donc effectivement, ça coûte cher. Parce que chaque aller-retour tout coûte de l'argent, parce qu'on utilise du tissu, parce qu'on crame du tissu, parce que voilà. Mais ça vaut le coup, parce que quand j'ai des dames qui me disent, bah, j'ai plus besoin d'aller à la Redoute, quoi. Mmh. Je peux trouver des jolies choses, parce que même si je suis une femme majuscule, j'ai le droit de m'habiller aussi avec des trucs fancy et sympas, quoi. Mmh.
C'est la première fois que j'entends femme majuscule, c'est très joli.
Femme majuscule, c'était le nom d'un magazine féminin.
Oui.
Qui a été créée par Muriel Rousse, qui est une de mes amies et actionnaires, et qui a déposé ce terme. Et je trouve que ça nous va super bien, parce qu'en fait, ça s'adresse aussi bien aux femmes fortes, grandes, carrées, qu'aux femmes de nos âges, vous voyez, enfin, de mon âge en tout cas. Donc, on s'appelle entre nous des femmes majuscules.
Très, très élégant. Ouais. Et donc, vous dites que, comment dire, le maillot coûte cher, et en particulier quand on va sur des plus grandes tailles, mais finalement, c'est quoi son prix en distribution directe et comment est-ce que vous l'avez positionné? Parce que quand on vous entend, moi qui connais le prix des maillots, je ne le trouve pas cher.
Non. Alors, il est d'autant moins cher qu'il est garanti 3 ans.
Oui.
Et ça, c'est un truc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'enorgueillir de garantir leur maillot. Et je le fais d'autant plus facilement que je n'ai pas de retour. Quoi. Voilà. C'est que ce maillot, il existe depuis 2014. Si j'en ai eu 4 ou 5 en retour, parce que les dames ont tiré comme des brutes sur les zips, et encore, c'est même pas de notre faute, vous voyez. Mais parce que quand vous achetez bien, quand vous achetez cher, normalement, parce que ça ne veut pas dire forcément ça, mais quand vous êtes exigeante, et moi, je suis vraiment l'emmerdeuse, quoi, je ne fais aucune concession. Je préfère arrêter, parce que je ferai autre chose dans ma vie. Je préfère arrêter que de faire un truc moyen. Moi, ce que j'aime, c'est que mes clientes me font rire parce qu'elles me disent « Mais Manuel, tu gagneras jamais d'argent. » Parce que je dis « Bah si, regardez comme je suis perfide. Je fais des nouvelles couleurs. » Donc, elles font du collectionning. Elles achètent les nouvelles couleurs.
Parce que donc, en moyenne,
le maillot coûte 250 euros.
Le dive, du coup.
Le dive, il fait 250 euros. Mais moi, mes clientes, j'ai des clientes qui l'ont depuis 2014.
Oui, j'allais dire, on imagine bien le garder 10 ans en
le
voyant.
Oui, c'est ça.
Surtout pour un usage piscine. Enfin, je dirais, il y a moins le facteur esthétique qu'un maillot saisonnier de plage dont on pourrait éventuellement se lasser.
Oui, mais les dames, elles le portent aussi à la plage. Et j'ai beaucoup de dames qui font du longe-côte et qui le portent sous leur combi aussi. Et c'est vrai que j'en ai développé un avec des manches et des jambes. Parce que il y a de plus en plus. Maintenant, c'est les clientes qui me demandent ah, je veux celui-là, j'aimerais bien un truc comme ça. Bah, celui avec les manches qu'on sort là actuellement. C'est parce que j'ai plein de dames qui m'ont dit ah, moi, je suis la première parce que je suis frileuse et que je veux pas montrer, je veux plus montrer mes bras. Et j'ai plein de dames qui m'ont dit ouais, s'il te plaît, fais-nous avec des manches. Donc voilà, il arrive. Il s'appelle le Vénus et il est en. Et là, jusqu'à. Là, je viens de le lancer. Et on le fait en précommande. C'est la première fois qu'on fait une précommande. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est bien parti, c'est rigolo. C'est un peu inquiétant, mais les filles, elles vont pas vouloir précommander, puis en fait, si. De même que quand j'ai commencé à avoir un site marchand, j'avais dit à ma fille avec laquelle je travaille, n'est-ce pas ? Je lui ai dit, mais jamais les filles vont acheter des maillots de bain sur un site. J'ai dit, moi, 60 ans, je n'achète rien sur les sites, moi. Je suis l'antithèse de ma fille. Ma fille ne va jamais dans les magasins.
Je suis pareil qu'elle, donc yeah, c'est que vous êtes ouvert à un nouveau marché, voilà. C'est sûr.
Et donc, quand j'ai commencé à voir que les dames achetaient mes maillots, je me suis dit, mais elles sont folles, comment elles font? Et en fait, j'ai pas de retour. On a moins de 8% de taux de retour. Donc, c'est vachement bien, il paraît. Enfin, moi, j'ai encore un chiffre dans un tableau, mais tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, si, on n'a pas de retour.
Bah, c'est un mélange de
plein
de choses.
À part que les femmes font toutes du 38, bien sûr. Donc maintenant, systématiquement, je dis aux dames, ça restera entre nous, donnez-moi votre poids, votre taille. Alors, et j'ai dit, prenez donc un 40, voire 42. Non, mais je peux. Écoutez, on est dans la corsetterie. Ça n'a rien à voir avec un manteau, machin. Mmh. On est, c'est de la lingerie. Donc, voilà.
Alors aujourd'hui, donc vous avez votre site, vous vendez en ligne, vous êtes distribué dans différents pays, dont New York, dans certains hôtels aussi.
Oui, les hôtels, je me suis fait une petite spécialité, moi j'aime bien le luxe, allez, soyons clairs. J'adore les hôtels de luxe, et notamment les spas. Et on s'adresse à une clientèle hyper facile, quoi. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui s'entretiennent. Elles ont la chance de pouvoir s'entretenir. Elles s'inscrivent dans des clubs formidables. Être membre du club du Ritz ou du Lutetia ou du Bulgaris, c'est quand même super chic. Et c'est un luxe absolu. Et elles comprennent. Et elles comprennent et j'ai pas besoin d'argumenter. Alors que dans les grands magasins, j'avoue que les grands magasins, j'ai expérimenté. J'ai été vendue pendant un an au Galeries Lafayette. Même si on faisait des belles ventes, il faut être derrière, il faut être là, quoi. Mmh. Il faut être là, il faut expliquer parce que mes maillots, ils sont pas faciles. Ce que je disais au bon marché, quand ils les mettaient entre RS et Touchy, j'en disais non, ça va pas du tout là. Mettez-moi à la Sporting Room. Avec Lolé, avec Repetto, avec Stella McCartney, mais pas avec les maillots de bain de plage.
Donc aujourd'hui, la marque a 10 ans, elle fonctionne bien, elle est vendue à plein d'endroits différents, et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour qu'elle décolle réellement, justement pour conquérir ce marché de 1% des ventes de bonnets de bain et pourquoi pas de maillots en France?
Ouais, alors je vous dirais peut-être que... les États-Unis, c'est un vrai marché, parce qu'on s'adresse quand même à presque 100 millions de nageurs qui nagent de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est un vrai marché. Et l'Asie? Je pense que, en fait, là, j'ai commencé à avoir des contacts avec la Corée et les Asiatiques se mettent à nager. Mmh. Et là, on s'adresse à un énorme marché qui aime beaucoup les produits français. Donc, après, ce ne sera pas mon histoire parce que moi, je ne saurais pas gérer ça. Mais je pense que ça peut être l'avenir de Cardo. La France, c'est pas le meilleur pays pour Cardo. Je trouve que c'est un marché qui est, à chaque fois que j'ai eu. Alors, pas dans les hôtels, mais à chaque fois que j'ai voulu démarcher ou que j'ai voulu présenter, on me dit « Oui, ce sont des maillots. » Eh bien non, ce ne sont pas des maillots. Voilà. Alors, je vais dire un truc un peu... Je fais des maillots de beauté, mais je fais des tenues de sport. Donc, voilà, c'est quand même... Il y a quand même une sacrée nuance. Je pense que oui, l'Asie et les États-Unis, c'est vraiment un marché à conquérir. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre que moi, donc.
J'ai anticipé ma question, mais vu le passif en Chine, c'était effectivement une hypothèse d'ouverture que j'avais. Ouais. C'est vrai que...
Oui, parce qu'ils se mettent à nager. Que quand ils se mettent à faire quelque chose, les Chinois, ils se donnent à fond et qu'ils sont dans une espèce de logique de compétition. Et surtout, ils ouvrent énormément d'hôtels de luxe aussi. Et dans ces hôtels de luxe, il y a, comme partout, des spas. Et aujourd'hui, les hôtels rivalisent avec deux choses. Hein, la table et le bien-être. Par exemple, pourquoi en montagne, à la montagne, aujourd'hui, tous les hôtels rivalisent en mettant en avant la gastronomie et la grandeur de leur piscine, la compétence de leurs esthéticiennes, les merveilles de massage. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment un axe, le bien-être, qui est énorme. Donc, voilà. Et si en Asie, ça explose comme ça, c'est déjà le cas aux États-Unis, ils sont très friands aussi des spas, des clubs de bien-être, des clubs de sport. Mais si en Asie, ils s'y mettent, je pense qu'il y a des grosses portes à défoncer, quoi. Et là, j'ai déjà, oui, je dis, la Corée. La Corée j'ai eu un premier contact, oui, c'est intéressant.
Et est-ce que, en ce qui concerne donc l'éco-responsabilité, la production en circuit court, en tout cas à proximité, les arguments marketing, vous diriez que c'est quelque chose qui séduit et qui fait partie des raisons pour lesquelles on vient vers Cardo? Alors ça peut être par tranche d'âge aussi, des motifs différents, ou bien pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement, spontanément, ça saute pas aux yeux dans les arguments de vente de la marque.
Non, c'est vrai qu'on me dit souvent que je le mets pas assez en avant, ne serait-ce que la garantie 3 ans. Et qu'effectivement, ils sont Ocotex, Rich, enfin, on a tous les certificats, je crois qu'on les a. Enfin, on a vraiment coché toutes les cases. Mais ça, c'est depuis le départ. Donc, pour moi, c'était tellement une évidence que j'avoue que là, vous m'en parlez, mais pour moi, c'est vrai que peut-être que je devrais plus communiquer là-dessus. Circuit archi court, donc dans une usine familiale. On enfin, les tissus français, pour moi, c'est une évidence. Et alors, on utilise aussi des fonds de stock. Moi, j'aime bien aller voir un peu ce qu'ils ont. Et puis, parfois, j'avais fait une collection tartan. Oh, mais je me suis régalée. C'était un tissu qui avait 30 ans. Que le fournisseur avait depuis 30 ans dans son truc. Il m'a dit, mais comment vous avez trouvé ce truc-là? Et oui, enfin, je ne me voyais pas aller à l'autre bout du monde chercher du tissu, ni produire. Donc déjà, et puis prendre des produits propres, quoi, avec le moins de produits chimiques possible. Quoi. Enfin bon, j'ai subi l'ablation de mes deux seins. Je me sens concernée, quoi. Je me sens très concernée.
Très bien. Donc, effectivement, il y a peut-être d'autres générations ou d'autres personnes avec une sensibilité différente, ouais, en dehors de l'esthétique et de la technicité du produit à aller chercher avec justement, ouais, ces arguments-là. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, ce serait une des premières choses que je regarderais.
Ouais. Je comprends.
Et alors, du coup, je reprends ma question. Pedro, tu couperas ce bafouillage, s'il te plaît. si on devait synthétiser sur... les erreurs, en fait, que vous avez pu faire au début et que vous éviteriez aujourd'hui si vous relanciez la marque, ce serait quoi? Ou ce serait tout pareil?
Non, ce serait pas tout pareil. Déjà, je ferais des PowerPoint et j'irai chercher des sous chez des investisseurs. Parce que, non pas que je cramerais plus de sous parce que c'est pas les miens, parce que c'est pas du tout ma façon de penser, mais j'aurais fait... Ouais, je pense que je ferais ça. J'irais raconter mon idée et j'irais lever des sous. Parce que ça, je n'ai toujours pas fait. J'ai fait que de la love money. Et c'est vrai que peut-être que pour mes prochaines... Peut-être que si je perdure, peut-être que... Je ne sais pas encore. Je vous dis, j'ai 60 ans, je suis un tournant de ma vie. Je me dis, c'est stop ou encore, j'en sais rien pour l'instant. Pour l'instant, j'ai encore du plaisir. Et puis, j'ai des clientes qui sont devenues tellement des amies et qui me portent et qui me disent oh, « s'il te plaît, lâche pas ».
Ou si... alors une transmission pour aller aussi sur le marché international.
Exactement, enfin... ou passer la main à des jeunes. Voilà. Peut-être que moi, je vais prendre ma retraite. Je sais que c'est un mot d'actualité, mais j'ai envie de faire autre chose parce que j'ai quand même d'autres cordes à mon arc, parce que je suis quand même boulangère aussi de formation. Donc,
il nous faut un autre podcast.
Voilà, mais c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, le pain. Et ça y est, je suis perdue. Je suis perdue dans ce
Non, je parlais des
dire.
Erreurs à éviter, vous disiez lever
ah,
de
oui,
l'argent.
Des erreurs à éviter, donc déjà, oui, aller chercher des sous dès le début. Pas beaucoup, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de sous. Même si sur LinkedIn, je regarde, je vois des trucs affolants, des gens qui lèvent des dizaines de millions. Moi, en tout cas, moi, dans mon truc, ce ne serait pas ça. Je ferais avec les sous des autres et surtout, je m'associerais bien. Alors, si je devais recommencer, je ne recommencerais absolument pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire faire confiance à quelqu'un qui n'a pas les aptitudes. Parce que moi, je n'ai pas du tout donc, une âme de chef d'entreprise, vous l'avez bien compris. Et je ne croirais pas quelqu'un qui est un très mauvais chef d'entreprise. Voilà. Donc attention, pas de copains, pas de petits copains. Il faut prendre quelqu'un qui a fait ses preuves, qui peut s'être planté, mais qui a la modestie de se remettre en question et de pas dire moi je sais tout et tu vas voir ce que tu vas voir. Et,
voilà. Finalement, tous les associés que vous avez eus en cours de route, c'est les gens à qui vous avez fait confiance à juste titre avec une intuition forte dans la marque.
Oui, alors. Les associés que j'ai qui ont mis un peu de sous, c'est que des copains qui ont mis des sous, c'est de la love money, mais ils sont pas du tout acteurs.
Je parlais plutôt des partenaires de confection, de la personne qui était modéliste. Non, non, mais
voilà. Non, tous ces gens sont des trésors. Mm. En fait, c'est des gens à qui je devrais donner des parts parce que c'est grâce à eux que cette marque existe encore. J'ai peut-être les idées. Mais en tout cas, il est magnifique. Donc ça, pour moi, ces gens-là, c'est du bonheur. Je souhaite à tout le monde de trouver des partenaires de ce calibre. Parce que quand vous avez des usines qui vous font un travail moyen, qui genre ça suffit bien. Enfin moi, des marques, il y en a des milliers des marques. Vous êtes bien placés pour savoir. Chez moi, parfois, je regarde, je vais de moins en moins dans les magasins. Parfois, je regarde les magasins, je me dis à quoi ça sert. Pourquoi parfois je passe d'une marque à l'autre, j'ai même pas vu que je suis dans une marque différente. Tout le monde fait la même chose. Alors je parlais un peu, je fais un peu la nana aigrie, mais il y a des moments, je dis mais arrêtez de produire, pourquoi faire? Arrêtez. Alors moi je produis tout petit. Pour ça, pour l'instant, Cardo, moi je le garde. Je dis, je suis un artisan. Je produis, je peux produire 100 maillots. J'ai cette chance d'avoir cette usine qui me dit mais tu peux produire que 100 maillots. Vous imaginez qu'elle m'autorise à produire 100 maillots toute taille, toute couleur confondue.
Incroyable.
Qui fait ça?
Ah, mais personne.
Alors elle fait ça parce qu'elle me dit j'adore tellement ce que tu fais. Et qu'elle dit, enfin, c'est une usine, parce que maintenant c'est une autre usine. L'usine, la première, a fermé, ils sont partis à la retraite, donc j'ai une autre usine, mais j'ai eu la chance de retrouver une usine dirigée par une femme. Il n'y a que des bonnes femmes dans son truc. Et elle me dit, mais non, je t'autorise à faire ça. Parce qu'en France, alors on me reproche beaucoup de ne pas produire en France. Alors je vais vous le dire, je ne produis pas en France parce qu'on me demande de faire 100 maillots à la taille et à la couleur. Je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai 12 couleurs dans le dive, du 36 au 48. Ben, je suis morte. Donc voilà. Donc quand vous avez une usine qui est là et qui, quand je l'appelle et que je lui dis « Est-ce que tu peux me faire 100 maillots ?»« Oui, je te passe entre Dolce et Vuitton et t'inquiète, t'es machin. » C'est le paradis. Le jour où elle me dit « J'arrête » ou « On fait plus ça ben, », j'arrêterai. À moins qu'il y ait une autre usine qui ait cette intelligence-là et qui s'adresse aux petites, comme moi.
Ou qu'on change d'échelle de marché et que la boîte est reprise.
Mais moi, en plus, j'ai pas envie que toutes mes clientes... J'avais fait un maillot de bain camouflage, qui est hyper fort. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas en faire des 100 000. Je ne veux pas qu'il y ait 100 000 bonnes femmes avec le même maillot. C'est comme si vous étiez toutes les deux dans la même robe du soir dans une soirée. Non, ce n'est pas possible. Non, non, moi, je veux rester exclusive. Je veux que les dames... Évidemment, j'aimerais même logoter les maillots, que les dames puissent mettre un message. Est-ce que je veux garder ce petit côté un peu sympa, quoi? Voilà. Non, je ne suis pas en passe de devenir Arena ni Speedo.
Je pense que c'est les meilleurs messages à retenir en création de marque. Aujourd'hui, on voit que toutes celles qui, malheureusement, se cassent la figure... était pleine de bonne volonté, mais c'est vrai que ces dernières années, on a assisté à une émergence de beaucoup de marques, souvent... à l'initiative de personnes qui n'étaient pas forcément créatives et qui voyaient plus des opportunités de marché issues d'écoles de commerce, qui étaient toutes similaires avec une offre de produits qui, même qualitatif, n'était vraiment pas distincte. Donc,
vous savez qu'en septembre, il y a un nombre de jeunes femmes qui vont dans les usines en disant « j'ai une idée de maillot de bain » et en décembre, c'est fini. Voilà.
On a dit quoi? Idée fixe, c'est ça?
C'est ça. Non, mais moi, j'ai persisté, mais franchement, bon... Il y a des jeunes femmes qui commencent en septembre, qui finissent en décembre, en pensant qu'elles avaient eu la bonne idée. Mais c'est tellement compliqué. C'est compliqué de trouver du tissu, c'est compliqué de trouver des usines, c'est compliqué de supporter le stress. Parce que l'air de rien, moi, il y a des nuits, je dors pas hyper tranquille, quoi. Parce que les gens comptent sur moi. Que je me dis, oh, et si j'ai plus d'idées un jour, ou et si ma prod n'est pas réussie, bon, j'ai eu la chance que ça ne se produise pas. Mais c'est beaucoup de stress, hein, d'être chef d'entreprise. Pour ça que je veux filer le bébé, moi, maintenant, je suis à l'âge canonique.
Maintenant, on va passer au côté un peu plus inspirationnel, voir où vous piochez votre inspiration. C'est assez drôle que vous ayez évoqué Audrey Hepburn tout à l'heure, parce que j'ai regardé pour la première fois Sabrina, son
film hier. Oh mon Dieu, c'est le... Oh, quelle merveille.
Et étrangement, je me souviens de cette scène où elle attend à la gare avec justement une coupe courte, cheveux noirs plaqués et un espèce de ruban bonnet blanc autour. Et ça me fait beaucoup penser au bonnet Cardo. Ouais,
ses petites, exactement. Ses petites chevilles fines.
Donc voilà, je ne suis pas surprise de voir ce genre de design très épuré et très stylé. Donc, est-ce que vous avez un livre, un site ou un podcast, une référence pour se cultiver sur le sujet?
Ce que je vous disais, Les Dessous du maillot de bain d'Audrey Hepburn, il est top ce bouquin. Je l'ai lu cet été, je suis en train de le relire. Alors c'est là où on se rend compte encore, hein, pauvre femme que nous sommes, mon Dieu. Mais quelle lutte pour arriver à avoir un maillot de bain. Quelle lutte, mais il est tellement fouillé son bouquin. Je pense qu'il faut, je pense que je vais pouvoir le relire et le relire. Elle évoque un petit peu le bonnet de bain d'ailleurs. Elle évoque un tout petit peu le bonnet de bain dans son bouquin. Il est passionnant ce livre. Hein. Enfin, faut aimer vraiment l'histoire du maillot de bain, mais c'est l'histoire de la femme, quoi, pratiquement. C'est l'histoire des femmes, hein. Et de leur corps. Et des horribles sorcières que nous sommes.
Qui ne nous a pas toujours appartenu, malheureusement.
Et ça fait pas longtemps, en fait. Ouais. C'est dingue, c'est hier, quoi. Dans l'échelle de l'humanité, c'est hier. Et encore.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans notre podcast?
Ouais, Alice Modolo. Je la trouve géniale. Il y a Alice Modolo, il y a Héloïse Pégourier, qui est une jeune talent qui est kitesurfeuse et qui commence à cartonner et que je salue ici, qui est une équerreur qui a un maillot cardo et qui l'aime beaucoup. Et cette jeune fille, elle a tous les talents. Elle c'est plus qu'il est fixe. Hein. Alors elle, c'est la murène. Et elle est dans un milieu hyper compétition et elle ne lâche rien. Elle lâche pas ses études. Elle a des parents qui la shadow. Enfin vraiment, elle m'épate cette gosse. Héloïse, chapeau. Oui, il y a Alice. Alors il y en a une que j'adore, c'est Virginie De Dieu, triple championne du monde de natation synchro. Que j'ai habillée pour les championnats du monde de Kazan en 2015. C'était la première fois qu'elle nageait en duo, couple, avec Benoît Beaufils. Et je lui avais fait le corset. Je lui ai fait son corset parce que je lui ai dit « Mais tu nages sur quoi ?» Quand elle m'a demandé de faire son maillot, d'abord, j'étais hyper fière parce que quand même, triple championne du monde, championne olympique, c'est une super nageuse. Et elle me dit « Je nage sur Roxane. » Je dis « Alors, je vais te mettre dans un petit corset, ma petite, parce que j'ai une petite courtisane. » Et on s'est régalé. C'est rien à faire ce maillot. Et après, j'ai demandé à mes clientes, vous voulez un corset? Elles m'ont dit oui. Et j'ai fait ce maillot qui est hyper sexy, mais très, très technique. Juste, évidemment, là, on ne peut pas voir, mais vous qui êtes là, mesdames, regardez comme ce que c'est qu'une usine qui travaille bien.
Alors, expliquez-nous.
Alors, voilà, là, j'ai mis le maillot corset à l'envers. Et je pense que si je n'avais pas l'étiquette compo... On pourrait le faire réversible, il n'y a pas un fil, il est absolument tout en gousset. C'est une merveille. Et ça, voyez-vous, alors je vais parler de prix quand même, parce que figurez-vous que, eh bien, en Italie, on est beaucoup moins cher, on est encore beaucoup moins cher qu'en France. Et je vais vous dire quelque chose, on est moins cher qu'au Maroc, avec un savoir-faire qui est exceptionnel. Parce que ce maillot de bain, si vous l'enfilez, la Victoire, vous allez dire, je ne veux pas l'enlever, je veux le garder.
Voilà. Je
ne le dis
pas deux fois.
On va retrouver Victoire au bureau, un maillot de bain.
En plus, la tête des body, j'en mets tout le temps.
Voilà, c'est vraiment... Et j'ai plein de jeunes filles qui mettent mes maillots en body. Et le dive, par exemple. Le dive en body. Et c'est marrant parce qu'il y a une jeune femme d'Arena que j'avais eu un rendez-vous chez Arena, un rendez-vous super drôle. Et elle m'a dit, mais je rêve d'un maillot comme ça. J'ai dit, écoute, Solof, ça me fait plaisir de corrompre quelqu'un de chez Arena. Et elle est partie, elle m'a dit, je vais le mettre avec mes jeans. Et effectivement, j'ai plein de jeunes filles qui les mettent avec les jeans. Et qui mettent aussi les jupes. C'est drôle, qui achètent des jupes et qui les coupent. Et enfin, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. J'ai fait aussi des bikinis, hein, puisque j'ai aussi des clients qui m'ont dit, mais j'aurais un maillot pour la plage. Attendez, les marques de maillots de bain, il y en a des milliers. Moi, je ne porte pas de maillot de bain, mais je trouve ça super joli. J'adore. Moi, j'aime nager à poil. J'adore être à poil. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire un maillot de bain pour la plage? Elle m'a dit, oui, mais je veux le twist cardo, la patte. Parce que frère, en fait, on a une calligraphie. Je ne pourrais pas dessiner un maillot avec des froufrous. Ce n'est pas possible. Je ne porte pas de froufrous, je ne comprends pas le froufrou. Et un maillot de bain avec des froufrous, quand on sort de l'eau, on a un look de noyé. Ça dégouline, c'est horrible. Pour moi, c'est pas possible. Un maillot de bain avec des froufrous, il doit rester sec. Et donc, j'ai dit, bon, ok, je vais faire un maillot de bain pour la plage. Ben, vous verrez qu'il a un twist sport. Il s'appelle le Rikiki. Je vous écoute, excusez-moi, je vais couper la parole.
Non, mais c'est très bien. Je vous remercie beaucoup pour ces inspirations et puis pour ce podcast, cet épisode.
Ben, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez appris des choses ?
Oui, moi personnellement, j'ai appris des choses sur le maillot de bain et je me suis pris une grande dose d'inspiration entrepreneuriale au féminin. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on retrouve Cardo ? Partout, sur Instagram ?
Sur cardoparis.com, ouais. Sur Instagram. Alors, je ne suis pas la meilleure communicante sur Instagram parce que ça demande beaucoup de temps, vous devez le savoir. Mais on a une gentille petite communauté que je n'arrive pas à faire décoller, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà.
On va essayer de lui donner un petit coup de boost alors.
Écoutez, voilà. Enfin, au début, j'étais vexée. Et puis ma fille m'a dit, mais maman, on s'en fout. J'ai dit, bah oui, en fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est, voilà, je communique. On fait des maillots quand on en a envie et on communique quand on a quelque chose à dire, surtout. Voilà.
Donc, on va sur le site tout de suite pour retrouver le Vénus manche longue en précommande. Et puis,
sur Instagram. Il est à 190 au lieu de 300 parce qu'effectivement, il va être... Il sera commercialisé au printemps, mais si vous voulez l'avoir en avant-première, voilà, vous avez un super prix d'approche.
Canon. Merci beaucoup, Emmanuel.
C'était un plaisir. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.